Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bien fait pour vous, l'émission qui vous vaut du bien. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi. Tout de suite, on va attaquer la partie de l'émission dans laquelle on retrouve nos bienfaiteurs du jour. On va commencer avec les conseils lecture de Nathalie Le Breton. Bonjour Nathalie.
Bonjour, bonjour.
Alors aujourd'hui, vous nous proposez des livres qui devraient inciter nos enfants à savoir dire non, à cultiver leur esprit rebelle. Oh là là, je crains le pire. Mais quelle mouche vous a donc piqué? Vous voulez embêter tous les parents qui nous écoutent? Quand beaucoup de parents se plaignent d'avoir des enfants qui s'opposent à tout, vous les encouragez.
Mais oui,
vous êtes sérieuse là.
Je suis tout à fait sérieuse.
Et attention, parce qu'il y a mon fils en régie aujourd'hui, alors j'aimerais pas que vous l'inspiriez trop. Hein.
Alors écoute-moi bien, je pense que c'est peut-être le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Bien sûr, vous faites allusion aux terrible twos quand ils s'opposent absolument à tout. Ils disent non, mais souvent ça veut dire oui. Voilà, on est d'accord là-dessus. Mais ce qui va être important aujourd'hui, c'est, et je voudrais vous présenter des livres dans le sujet, c'est de savoir dire non à bon escient. Essayez de rompre avec l'image, vous savez, de sage comme une image qu'on donne aux garçons et parfois aux filles. Et donc d'utiliser la palette formidable que l'on a. Il faut parfois une vie, on est d'accord. Alors on va commencer avec un album qui s'appelle Plein les bottes, qui est un livre de Leïla Brion, ça ne s'invente pas. Et je peux vous dire que non seulement les illustrations sont merveilleuses, mais le texte aussi. C'est l'histoire d'un petit Elliot, c'est la rentrée scolaire. Hein. Mm-hmm. Alors on est en plein dans le bon moment et on lui offre une paire de bottes. On en a tous rêvé pour aller sauter librement dans les flaques. Alors, il est trop content avec ses bottes, sauf qu'elles sont un peu larges, comme toutes les bottes pour aller sous la pluie. Et là, les parents arrivent hyper bien intentionnés, avec tellement de recommandations pour lui donner du plomb dans les semelles. Et donc, la famille s'y met en entier. Et le grand-père de lui dire « Non, 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 mais attends, à l'école, là, c'était le roi des osselets et des billes. Vas-y, mets des sacs de billes, ça va aller. » La grand-mère, hyper précautionneuse. « Oh, mon petit chéri, mais non, il faut que tu prennes une trousse à pharmacie, des pansements, quelque chose. Tu risques de te faire mal. Allez, une trousse à pharmacie, dans les bottes. Le père Jean, le père nourricier, vous voyez. Alors là, non, mais tu vas avoir faim, la cantine, c'est quand même assez moyen. Tiens, un ça, goûter, deux goûters.
Ça devient le sac de Mary Poppins, ce truc-là. Attendez, il n'y a pas eu la maman encore.
Et voilà, et la maman, vous vous doutez où ça va, c'est-à-dire la maman qui, elle, vise que son fils réussisse dans la vie, réussisse ses études, et des cahiers, et des règles, et des crayons. Là là. Sauf que voilà.
Plein les bottes.
On en a plein les bottes. Et comment être soi? Comment jouer dans la légèreté avec les autres quand on en a autant dans les bottes? Comment se libérer? Ce petit garçon a bien envie d'aller jouer avec une petite fille qui est là. Il retire donc ses bottes avec toutes les recommandations, les intentions, les poids, les bonnes. Enfin voilà, tout ça, il se libère. Et enfin, il va prendre du plaisir en jouant avec cette petite fille. Il va se libérer des carcans familiaux.
Mais dites-moi, c'est un message pour nous les parents, non? Ça nous dit quoi à nous?
Oui,
il faut calmer le jeu un peu.
Et exactement, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut les encourager, mais si on est trop intrusif, effectivement, c'est là qu'on donne du poids et l'enfant n'est plus soi-même, il n'a plus d'espace pour savoir qui il est. C'est-à-dire, il est la reproduction exacte de ce que voudrait toute la famille et ses parents.
Et c'est donc, il faut savoir s'émanciper des recommandations familiales et des injonctions parentales, certes, mais il y a aussi à l'école des enfants qui veulent plaire à tous et pensent qu'en disant oui, ils auront plus d'amis. Là aussi, c'est compliqué.
Ouais, vous connaissez ces enfants hyper sages. Et je dois dire que j'en parle. Moi, il m'a fallu probablement 4 dizaines pour y arriver. Vraiment faire plaisir à tout le monde, être exactement, toujours dire oui. C'est le cas de notre petit loup, de Claudie Stanquet et Barou. Non, 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 c'est non. Et c'est sorti aux 400 coups. Et c'est l'histoire de ce petit loup qui se dit, mais moi j'en ai marre de dire toujours oui à papa, à maman, aux copains, etc. Il s'entraîne devant son miroir. Ça ne marche pas. C'est vrai que savoir dire non, il faut effectivement regarder les circonstances et ce qui se passe. Alors le miroir, bon, il y a un non qui finit par sortir, mais c'est quand même très difficile. Il se retrouve à un moment donné, il part, il se dit « ça y est, je sais dire non ». Il retrouve une petite fille sur le chemin de l'école et qui a coincé quelque chose et il est obligé de lui venir en aide. Comment dire non à une petite fille beaucoup plus petite que soi? Alors il a « non, oui ». Il craque et ensuite il se retrouve dans l'école, il y a un cerf-volant. Là aussi, il y a un petit groupe de copains qui lui dit « va chercher mon cerf-volant ». Et alors il se dit « non, mais en plus il a le vertige ». Savoir dire non quand on a un problème, soi-même, ne pas aller au-delà de ce qu'on est capable de faire, c'est un petit peu le message, il va y aller quand même parce qu'il ne sait pas dire encore Non, il va monter et d'un seul coup, il y a trois méchants loups qui vont arriver et il va glisser de son arbre parce qu'ils vont lui dire « Mais vas-y, vas-y, décroche la lune, décroche la lune !» Et alors là, il arrive enfin à dire non, il glisse, mais il a réussi, il retrouve la légèreté.
Je crois que très rapidement, Nathalie, vous avez un petit dernier à nous proposer, ça concerne les petites filles plutôt.
Mais oui, un petit chaperon rouge, excellent livre de Marjolaine Leray qui est sorti chez Encore une fois. C'est l'histoire tout à fait classique d'un conte revisité que vous connaissez par cœur, où cette petite fille va être prise et dévorée par le loup. Le mot est important parce que là, on peut parler de situations que vivent les petites filles. Et en fait, elle va faire face à ce loup méchant cette fois. Et elle va être dans l'histoire. Oui, oui, t'as des grandes dents, tout ça, oui, vous connaissez. Oui. Et puis, il y a un moment donné, elle lui dit « Oh là là, t'as quand même mauvaise haleine. Hein. » Tiens, elle va lui donner un bonbon et il va s'étouffer avec ça. Et alors, et donc, parce qu'il va prendre le bonbon, bien sûr, lui, il va dire oui. Et ça se termine avec ce petit chaperon rouge qui est une fille formidable. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elle va se retourner vers lui et elle va dire
« Je le
naïf.
Veux, celui-là. Je le veux. Quel couillon, ce loup, là, ce grand méchant loup. Merci, hein, Nathalie, pour ces recommandations de livres pour enfants qui nous ravissent, nous aussi, les parents. On retrouve leurs références sur europe1.fr et tous vos choix dans vos box notissés au thon. Allez, il est temps de passer à table. J'ai faim.
Ça va les filles?
J'ai faim de
très
figues.
Bien.
Ça tombe bien, non?
Ouais,
Del
très bien.
Allez, on en magasin.
Alors, les filles, ouais, et les figues. Alors, les figues. Alors, avant que ce soit la fin de la saison, je voulais vous en parler. Elles sont toutes pulpeuses, sensuelles, juteuses pour certaines, gorgées de soleil et de sucre. Elles rappellent les vacances, elles sentent la Grèce, l'Italie, le Sud, le Maroc. On les appelle les violettes de Solliès, les sultanes, les gouttes d'or, les rouges de Bordeaux, les marseillaises. Oui, on dirait des noms de clubs de foot féminins, mais non, ce sont bien des variétés de figues, mesdames.
Il est excité par la figue. Hein.
Ah, il aime la figue. Mais
vous voyez comment elle est sensuelle, cette petite figue.
Bon, donc il en existe plusieurs. Variétés,
alors,
hein,
il y a plusieurs variétés, 700
pas toutes en
exactement,
France, forcément, hein.
Mais les plus courantes, c'est celles dont je viens de parler, qu'on trouve facilement sur les étals de marché. Par exemple, la violette de Solliès, c'est celle que j'ai là, c'est la seule AOP, elle pèse presque 80 grammes pour les plus grosses.
Elle est lourde,
elle est toute douce, elle est violette, elle est hyper sucrée. Ouais.
C'est bien qu'elle soit douce là.
C'est ce qu'on appelle aussi, vous savez que les figues, c'est ce qu'on appelle aussi un faux fruit en forme de goutte, elle renferme plusieurs petites fleurs. Et qui croque sous la dent, et ces petites graines. C'est comme si on prenait des fleurs comme ça ouvertes et qu'on venait fermer, et ça forme cette petite goutte qu'on appelle la figue.
Moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai toujours du mal à choisir la figue. Ouais. Parfois, je vais choisir un petit peu molle, là, justement, en me disant bon, mais elle va être trop mûre, et puis après, c'est pas bon. Alors, comment on choisit une bonne figue?
Alors, évidemment, j'ai appelé la spécialiste des figues. Elle s'appelle Christine Ross, arboricultrice dans le Sud, et elle est aussi artiste. Hein. Elle fait des bouquets de fleurs, et on va l'entendre, tiens.
Pour savoir si une figue est mûre et prête à être consommée, on peut observer sa peau qui normalement devrait être légèrement craquelée et souple au toucher. Ensuite, il faut aussi observer l'ostiole d'une figue, petit orifice sous la figue. S'il s'écoule une goutte sirupeuse, c'est le signe d'une figue très juteuse, sucrée et très goûteuse. Dans ce cas-là, le fruit doit être consommé très rapidement.
C'est super, Mélanie, on a plein la bouche.
Non, c'est la figue séchée, j'adore ça.
Mais
comment on peut les cuisiner, les figues? On en trouve dans du salé parfois.
On peut les trouver dans les salés, on peut les faire en confiture quand elles sont mûres, en chutney pour accompagner un bon foie gras, toutes fraîches à déguster avec un granola. On fait un petit fromage blanc ou un yaourt 0% de marte. Tiens, grâce. On met des petits granolas par-dessus, des petites figues comme ça coupées par-dessus, ou même rôties au four avec une légère pointe de vanille.
Bon.
Prenez la gousse de vanille, vous la coupez en deux, vous récupérez les graines, vous mettez ça avec du beurre sur vos figues que vous coupez légèrement comme ça au-dessus en quatre. Vous mettez ça au four à 180 degrés, elles vont rôtir avec cette gousse de vanille. C'est hyper bon.
Je crois que vous avez une recette spéciale pour nous aujourd'hui. Hein.
Alors, j'ai une recette qui est très très simple, qui ne demande pas beaucoup de temps. Alors,
c'est des
briques de figues à la feta. Alors, on connaît les briques, hein, c'est ces petites feuilles de briques.
Est-ce que c'est les feuilles de briques,
Julia? Soit triangulaires.
Bah, évidemment, c'est la base.
C'est la base de la nourriture de Julia. Alors, 6 feuilles de briques pour cette recette, 10 figues fraîches, 200 grammes de feta, 3 cuillères à soupe de miel, 10 noix fraîches concassées, ça tombe bien, c'est la saison des noix, 6 feuilles de sauge, pareil, on en a de la sauge. Hein. Alors, pas besoin de sel, parce que la feta est déjà assez salée. On va commencer par préchauffer son four à 180 degrés. Okay, pour qu'il soit bien chaud au moment où on va mettre nos briques dans le four.
Okay.
Alors, vous étalez ces feuilles de briques toute simple. Alors vous voyez à quoi ça ressemble. On peut aussi prendre les feuilles, vous voyez, les toutes fines.
Sulfurisées
comme... ouais, non,
de pas sulfurisées, non.
La
feuille de... si, je l'ai fine.
De...
Ah, je l'ai.
On l'a aussi.
On est des bonnes cuisinières. On reste sur les feuilles de briques, c'est pas grave.
on dépose la feta par-dessus en morceaux, les figues coupées en quatre. Vous versez un tout petit peu de miel par-dessus, ça va apporter du sucre. Vous déposez comme ça les petites noix concassées, les feuilles de sauge. Vous fermez et vous obtenez la forme que vous voulez, tant que ça fasse un petit chausson, soit un triangle, soit
vous allez
soit
nous
un
payer ça comment, Julien?
On
en triangle, leur chausson, qu'est-ce que vous préférez?
Vous préférez quoi?
Mais moi, je fais des briques au kilomètre, on m'a appris une fois, maintenant j'arrive. Oui, et je les fais en triangle, moi, perso.
Ah, d'accord, okay.
C'est très facile.
On a enfin découvert le seul plat que Julien sait faire.
Et du coup, je fourre n'importe quoi dedans.
C'est bon, on peut tout mettre, c'est un fourre-tout, la brique,
exactement.
Finalement. On met ça au four 20 minutes jusqu'à coloration et on déguste ça avec une petite salade de mesclun. Et c'était la pâte à filo que je cherchais.
Mais oui, j'ai dit fifi, mais j'hésitais avec la pâte filo, les trucs que les enfants pour jouer, mais c'est pas ça.
Ouais, c'est tout simple. Hein. Oui, ou tout simplement manger comme ça fraîche.
Bon, bah c'est parfait. Moi, je trouve qu'on valide, non, Nathalie, cette recette.
Ça me fait envie.
Allez, merci Abdel pour cette belle mise en valeur de la figue et toutes ces astuces culinaires.